Question politique avec le journal Le Monde et France Info, c'est en direct et c'est parti jusqu'à 13h. Bonjour et merci d'écouter Question politique avec l'équipe du dimanche, Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions, Françoise Fressos du journal Le Monde et Karine Bécard de France Inter. Bonjour à toutes les trois.
Bonjour
à tous.
Beaucoup de joie malgré le confinement, c'est bon signe. Et pourtant, une émission au terme d'une semaine marquée par le discours du Premier ministre à l'Assemblée nationale mardi. Édouard Philippe qui présentait la stratégie du gouvernement pour le déconfinement, un mode d'emploi encore précisé hier après le Conseil des ministres. Mais encore beaucoup d'incertitudes et de questions. Et la date du 11 mai doit-elle encore susciter l'espoir ou n'est-elle plus qu'un objectif improbable? Deux invités dans Question politique jusqu'à 13h. D'abord le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. Et dans 30 minutes, c'est la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, qui répondra à nos questions. Pour réagir, pour intervenir, le hashtag #QuestionPol ou l'application mobile France Inter.
France Inter, question politique, Ali Badou.
Bonjour Laurent Berger.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne d'Inter. C'est la une du Parisien aujourd'hui en France. Une citation d'Olivier Véran. La date de levée du confinement pourrait être remise en question. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement nous prépare psychologiquement à ce que le confinement n'ait finalement pas lieu le 11 mai?
Je n'en sais rien. Le déconfinement. Parce que ça dépend, j'imagine. Le déconfinement, ouais, j'avais compris. Ça dépend sans doute de données sanitaires qui sont pas de mon domaine. Donc, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que, et dans le confinement, et dans le déconfinement, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui qu'on oublie les personnes qui sont les plus en difficulté. C'est-à-dire que il y a d'abord beaucoup d'incertitudes, ça crée de l'angoisse. Il faut le dire, par exemple sur le sujet des écoles, mais il y a aussi beaucoup de souffrance dans ce confinement et dans les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Je reviens pas sur les questions sanitaires, je ne suis pas un spécialiste, mais elle laisse beaucoup d'inconnus, notamment pour les personnes, des pans entiers de la population qui sont aujourd'hui en grande difficulté.
Vous parlez de difficultés psychologiques, de difficultés sociales particulièrement?
Je parle de difficultés psychologiques en partie, parce que dès le départ, la CFDT avait proposé qu'on mette un comité d'experts en sciences sociales pour savoir ce que la situation provoquerait en termes de d'équilibre personnel, collectif dans la société. Mais je parle surtout des femmes et des hommes qui ont déjà perdu ou qui risquent de perdre leur emploi et se questionnent sur leurs indemnités, des femmes et des hommes que l'État a hébergés en urgence et avec des associations, avec le secours des associations et qui se demandent s'ils vont être remis à la rue, des personnes qui n'ont déjà pas assez pour vivre en temps normal et qui doivent supporter des charges supplémentaires. On vient d'entendre sur votre antenne l'interrogation du maire de Clichy-sous-Bois. Des jeunes qui seront sans solution de travail, voire d'études, voire de formation, et qui ont aujourd'hui pas accès aux minima sociaux. Voilà, je pense aussi à toutes ces associations qui sont indispensables au lien social en temps normal, qui le sont encore plus dans cette situation de confinement et qui sont exsangues financièrement. Donc c'est cette alerte-là que la CFDT a voulu porter avec les 55 associations du pacte du pouvoir de vivre.
Et on va en parler, notamment la Fondation Abbé Pierre et l'association de Nicolas Hulot.
Il faut pas oublier... Bien sûr, il faut pas oublier toutes ces personnes qui aujourd'hui font dont le confinement fait qu'ils sont en grande difficulté.
Nathalie Saint-Cricq.
Oui, bah, bonjour Laurent Berger. Précisément, qu'est-ce que vous demandez au gouvernement de plus si vous deviez trouver ou demander deux demandes particulières, assez ciblées et assez précises? Qu'est-ce qui manque pour l'instant selon vous?
Moi, d'abord, je dois le dire, encore une fois, je me positionne pas sur l'aspect sanitaire, même si on voit bien que la question des masques a polarisé beaucoup de choses, mais là, je ne suis pas compétent.
Non, mais
sur
les conditions de la sécurité au travail, c'est une question qui vous concerne au premier chef.
Justement, c'est pour ça que je vais y venir. C'est sur la question économique d'urgence, réaction à partir du 15 mars. La réponse a été là. Il y a eu un soutien massif aux entreprises et un soutien aussi via l'activité partielle plutôt que les licenciements, ce qu'on avait fait, ce que le pays avait fait, par exemple, en 2008-2009, contrairement à d'autres pays voisins européens. Donc là-dessus, j'ai pas sur la gestion économique et les réponses qui ont été apportées sur un certain nombre de questions qui touchaient les salariés, il y en a eu. Maintenant, la question qui est posée, c'est le déconfinement. Très clairement, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas de déconfinement professionnel sans qu'il y ait des protocoles d'accord de reprise du travail. qu'on s'interroge sur la façon dont ça va se passer. Et parmi les questions qui vont être à poser, c'est la question de l'organisation du travail, évidemment, de des process de production, que ce soit de production de biens ou de services, mais également les équipements individuels de protection. Et dedans, il y a évidemment le masque. Et puis, il y a les questions, les sujets qui touchent au travail, mais qui ne sont pas directement du travail, mais qui sont la question des transports, dont on sait que c'est extrêmement important et extrêmement anxiogène. Et je rajoute, dans les questions difficiles, la question de l'école, parce qu'on ne sait pas comment on sera traité, selon que l'école de notre enfant est rouvert ou pas rouvert, et qu'on soit en télétravail, ou qu'on soit... Comment on va être considéré si on est en chômage partiel, etc. Donc, il y a beaucoup de questions autour de la reprise du travail. Mais au-delà de ça, il y a aussi des questions pour des personnes qui sont aujourd'hui en grande difficulté. Donc, on demande, par exemple, une aide exceptionnelle de solidarité de 250 euros par mois et par personne aux ménages les plus en difficulté. Il y a eu un premier geste de fait. Encore une fois, il faut reconnaître les choses avec une prime de 150 euros par ménage, mais qui concernait que les familles avec enfants. Il y a aussi des personnes seules qui sont dans la situation. Et cette aide, on le voit aujourd'hui, elle n'est pas suffisante. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est tous ces ménages, toutes ces familles, toutes ces personnes, parfois seules, qui sont en des difficultés, qui ont des difficultés pour se nourrir, tout simplement.
Françoise Fraisseuse.
Alors, vous dites qu'il faut des protocoles d'accord pour la reprise du travail, et il faut signaler aussi que vous êtes avec la CFTC, le syndicat qui a signé, au fond, avec le patronat, un texte pour dire qu'il faut quand même reprendre vite le travail dans la mesure où on a un vrai risque social, économique. Aujourd'hui, où en sont ces protocoles d'accord? Est-ce que vous pourriez dire que la majorité des entreprises l'ont signé ou pas?
Laurent Berger.
Non, pas encore, évidemment, mais vous savez, moi, je crois qu'il faut, lorsqu'on exerce une responsabilité, regarder la situation actuelle et avoir un peu de vision. Personne ne peut considérer qu'on va pouvoir tenir longtemps avec une activité économique totalement ralentie et la moitié des salariés du privé en chômage partiel. Et donc, la question, elle est oui, elle n'est pas de savoir s'il faut le faire à n'importe quel prix, mais il faut, oui, c'est normal qu'on essaye d'agir pour une reprise de l'activité économique.
Donc vous êtes d'accord avec le gouvernement?
Ce que dit le texte qu'on a signé de façon paritaire avec une organisation patronale et une autre organisation syndicale, c'est de dire ça ne peut pas se faire sans d'abord regarder les conditions de santé et de sécurité. Et on a des exemples très précis d'entreprises où il y a eu cette reprise d'activité avec des accords. Je pense à Toyota, mais qui est une grande entreprise, donc on va me dire oui, c'est une grande entreprise, donc il y a aussi des petites entreprises. Je pense à une coopérative agricole laitière dans le Calvados. Je pense à Gris Découpage, qui est une PME de la métallurgie en Meurthe-et-Moselle. Il y a tout un tas d'entreprises qui ont compris qu'il n'y aurait pas de reprise d'activité si on ne prend pas le temps de rediscuter avec les salariés et avec les représentants du personnel pour faire autrement en termes de production.
Mais quoi de différent, Laurent Berger, entre ce que vous dites et ce qu'a pu dire la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, par exemple, mercredi sur l'antenne d'Inter?
Non, mais je cherche pas forcément à être avec Madame Pénicaud en différent sur tout. Ce que je dis, c'est que là, il y a une responsabilité des organisations patronales, mais aussi des employeurs en tant que tels, de pas faire une reprise comme s'il ne s'était rien passé depuis 2 mois. Je crois que, vous savez, on n'a pas besoin, quand on est syndicaliste, de chercher des ennemis. On a besoin de porter les préoccupations des travailleurs. Et les préoccupations des travailleurs aujourd'hui, c'est de reprendre leur emploi dans de bonnes conditions, dans de bonnes conditions de santé et de sécurité. Et c'est absolument indispensable. C'est possible, on le voit dans certaines entreprises. Et puis dans d'autres, eh bien, on ne fait pas beaucoup de cas. Je pense notamment à Amazon, évidemment, mais d'autres aussi. On ne fait pas beaucoup de cas de la santé et de la sécurité. Et dans ces cas-là, il faut être intransigeant et pas donner la possibilité de rouvrir. Donc il faut donner un gage à ceux qui, par le dialogue social, vont trouver les moyens, au plus près de chaque réalité de travail, d'adapter les postes de travail, la production, de trouver les équipements individuels, de trouver des réponses à la restauration collective, etc., pour que l'activité reprenne. Mais encore une fois, si la santé des salariés est assurée.
Question de Karine Becker.
Du coup, j'ai envie de vous demander, Laurent Berger, d'être plus clair, tout simplement. Est-ce que vous partagez les doutes ce matin du gouvernement sur une reprise, notamment économique? Est-ce qu'il est trop tôt ou est-ce qu'il est grand temps de retourner travailler? Vous dites quoi? Parce que là, vous parlez de plein de cas et finalement, on n'arrive pas à comprendre si, comme la CGT, ben, vous freinez des cas de fer.
Mais parce que Madame Bécard, la situation, elle n'est pas pareille selon que vous travaillez dans un bureau et que vous pouvez continuer à télétravailler, malgré des conditions qui sont parfois pénibles. Le télétravail, c'est pas le grand bonheur permanent, hein, pour nombre de salariés, qui ont notamment les enfants à la maison, qui ont parfois des conditions, y compris matérielles. On recense beaucoup de mal de dos, de maux de dos supplémentaires pour les travailleurs, par exemple, en ce moment. Mais donc, il faut continuer à télétravailler, parce que la question de la santé est absolument indispensable. Mais il faut pas qu'on se raconte d'histoire. Ce qui nous arrive devant nous en termes de vagues, de situations d'emploi et de situations économiques est extrêmement grave. Extrêmement grave et totalement inconnu pour toutes nos générations. Et donc la question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut essayer de reprendre de l'activité économique? La réponse est oui. Et
oui.
On le voit bien,
les travailleurs,
c'est ce qu'ils demandent. Mais mais en prenant le temps de qui est pas forcément du temps très long, mais le temps de la délibération et du dialogue pour
mais
que
non,
ça se fasse
oui,
dans de bonnes
conditions. Mais Laurent Berger,
vous
qu'est-ce
savez,
que ça veut
à
dire?
Toyota. Non. Eh ben, ça veut dire qu'il faut des protocoles de reprise d'activité, comme ça s'est fait dans les entreprises qui, si ça avait été fait par tous, d'autres entreprises seraient déjà en activité. Ça veut dire que Toyota tourne, Gris Découpage tourne, Isigny Sainte-Marie, la coopérative dont je parlais, elle tourne, et d'autres entreprises aussi. Et donc, la question est posée, c'est que oui, il faut de la reprise de l'activité économique. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. Hein. Ce qu'on est en train de vivre là, en termes de situation de l'emploi, je vais pas être un oiseau de mauvaise augure, mais c'est très très grave en termes de chômage, d'augmentation potentielle
du chômage. Au spectaculaire du chômage au mois de mars, du jamais vu, une augmentation de 7%,
oui,
c'est une augmentation historique.
Oui, c'était juste le mois de mars, ouais. Juste le mois de mars. Là, depuis, il y a eu deux mois, un mois et demi de situation de confinement. Donc, il faut reprendre, mais ça doit se faire avec des protocoles de reprise d'activité qui soient négociés dans les entreprises et les administrations.
Karine Bécard.
Est-ce que vous avez des craintes, Laurent Berger, sur les futurs rapports sociaux, justement, dans les entreprises, entre les salariés qui auront pu télétravailler, on en parlait à l'instant, et ceux qui ont dû continuer à venir dans des ateliers? Est-ce que vous percevez d'ores et déjà des situations de tension?
Oui, il y en a eu beaucoup au départ, dans l'expression. Ça s'est un peu atténué, mais le retour à l'activité, non pas normal, parce qu'on n'y est pas, loin s'en faut, mais un peu plus classique, peut générer ce risque. Vous savez, on a fait une enquête avec l'Institut Kantar sur la façon dont les travailleurs vivaient cette vivaient cette période. Et c'est sûr qu'il y a des situations très très différentes selon qu'on soit. Il y a 32% des cadres qui ont travaillé en présentiel contre 96% des ouvriers. La situation pour les salariés en chômage partiel, en activité partielle, selon qu'on soit dans une très petite entreprise ou une grande entreprise, la perte de salaire n'a pas été la même. Donc, on voit bien qu'il y a des solutions différentes, mais on n'aurait aucun intérêt, ni les uns ni les autres, à accentuer sur le vécu différent. Je le répète, être au chômage partiel tout seul chez soi, ça a un impact psychologique très très important, parce qu'on a un sentiment d'inutilité, on a beaucoup de craintes sur son avenir demain. En termes d'emploi. Être au télétravail, c'est pas non plus toujours la panacée, loin s'en faut, même si on a vu que le télétravail était aussi possible dans des entreprises qui s'y refaisaient jusqu'alors. Donc, faudra pas jouer sur les affrontements. Vous savez, bien sûr qu'il y a eu des situations différentes, bien sûr qu'il va falloir valoriser les métiers qui étaient peu valorisés jusqu'alors et qu'on fait face, en présentiel notamment. Mais, et quand je dis les métiers, c'est ceux du privé comme ceux du public, hein, et les soignants, évidemment, mais pas que les soignants, mais il va pas falloir jouer sur les affrontements entre les uns et les autres. Je crois qu'on aura besoin de serrer les coudes, parce que la situation économique et sociale va être compliquée.
Nathalie Saint-Cricq.
Laurent Berger, si vous aviez des enfants en âge scolaire, ce que je ne sais pas, est-ce que vous les mettriez à l'école? Première question. Et deuxièmement, est-ce que vous comprenez le casse-tête des parents qui savent que pas si ça sera une semaine sur deux, un jour sur trois, et comment ces parents-là vont faire pour pouvoir aller retravailler?
Non mais j'en ai et je comprends le casse-tête. C'est vous savez, moi je dis attention à pas se défausser sur la responsabilité individuelle des citoyens. C'est très très compliqué parce que c'est chaque parent va se demander mais c'est quoi être un bon parent?
C'est ce que fait le gouvernement.
C'est de le mettre à l'école si c'est ouvert. Oui, je crois que sur ce sujet-là, oui, il se défausse sur la responsabilité individuelle des citoyens. Moi, j'étais pas fan du volontariat, je vous le dis franchement à titre personnel. Parce qu'à un moment donné, c'est pas moi qui peut dire si ma fille elle peut reprendre en toutes conditions de sécurité. Je suis pas qualifié pour le dire parce que je connais pas ce que c'est ce virus exactement, évidemment, je suis pas médecin, parce que les conditions d'accueil dans l'établissement, c'est pas moi qui puisse considérer s'ils sont bonnes ou pas bonnes, j'en ai pas toute la connaissance. Et donc oui, je le dis, c'est la façon dont c'est géré pour l'école, c'est d'abord de la renvoi de la responsabilité au maire. On voit bien qu'aujourd'hui, ils sont très inquiets et ils sont très en réaction. Et je les comprends. Et de l'autre côté, c'est une force, c'est un peu se défausser sur la responsabilité individuelle des parents qui sont un peu perdus. Et j'en fais partie.
Face à cette situation, vous ne savez pas ce que vous ferez.
Moi, je suis pour que lorsqu'il y a une possibilité, je suis pour les règles collectives en partie, et donc si l'établissement rouvre, je pense que je souhaiterais qu'il y ait un retour à l'école. Mais je crois qu'il faut savoir le dire de temps en temps. Je trouve que ça renvoie trop à la responsabilité individuelle, alors qu'on n'a pas tous les moyens de décider seul.
Donc clairement, il fallait que ce soit obligatoire.
Clairement, il faut que les conditions de là aussi soient. On prenne le temps. Nous, on réclamait la CFDT. On nous dit on va faire une journée, on va faire une sorte de pré-rentrée, mais c'est pas une journée. Il faut au moins une semaine. Vous imaginez dans les écoles les situations très différentes. Mais ne serait-ce que parce que les bâtiments sont pas les mêmes, parce que les réalités physiques dans chaque classe ne sont pas les mêmes. Il faut prendre le temps. Il faut aussi que ça se discute avec l'ensemble des agents publics qui sont dans les écoles, les enseignants évidemment, mais dans les écoles, vous savez aussi qu'il y a des agents territoriaux. Dans les collèges, il y a des agents départementaux. Ça peut pas se faire sans qu'on leur demande ce qu'ils en pensent, comment ils vont faire. Et donc, faut prendre le temps. Donc, oui, je pense qu'il faut une mesure. D'abord, ça sera peut-être différencié selon les territoires, d'après ce qu'on a compris. Mais il faudrait des mesures qui soient les mêmes pour tout le monde. Mais ça veut pas dire qu'il faut y aller tous en même temps. Moi, je veux pas être. C'est pas nous qui allons décider. Enfin, c'est quand même très compliqué en tant que parent de décider soi-même de si on va mettre son enfant ou pas à l'école. Enfin, je trouve ça bizarre. Je l'ai dit dès le départ. Je continue de le penser.
Françoise Fressoz.
Est-ce que vous êtes déçue, compte tenu de la gravité de la situation économique, que tous les syndicats n'aient pas fait comme la CFDT, c'est-à-dire se soient prononcés pour une reprise du travail, évidemment dans les conditions de sécurité, mais en tout cas pour que le pays se remette rapidement en activité? Est-ce que vous comprenez cette désunion syndicale?
Laurent Berger.
Oui, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de responsables syndicaux qui aujourd'hui disent qu'il ne faut pas du tout reprendre l'activité. Par contre, il y a certains qui ont plus de mal à le dire publiquement. Mais vous savez, moi je crois que quand on est un syndicaliste, on est attaché au fait qu'il y ait de l'activité économique pour qu'il y ait des emplois, et c'est après à nous de nous battre pour que ces emplois soient de bonne qualité. Mais un syndicaliste, c'est pas anti-économie, hein, parce que sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Donc nous, on sait, je pense qu'il faut de la reprise d'activité économique, faut que ce soit encadré, y compris par du dialogue social. Il faut aussi que les aides qui sont attribuées aux entreprises soient contrôlé, évalué de façon paritaire, et vous savez qu'il y avait un comité de suivi de ces aides qui avait été
donc
installé,
sous condition.
Il y avait aucun représentant. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il faut, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais il faut pas repartir comme avant. Donc cette crise, elle nous démontre que les entreprises, elles ont besoin de la puissance publique, c'est le moins qu'on puisse dire. Il faut savoir que l'utilisation des aides, elles doivent se faire si on s'oriente vers de plus de justice sociale, une meilleure prise en compte de l'écologie. Mais je reviens sur ce comité de suivi des aides. C'est pour vous dire où on en était. Il n'y avait pas d'organisation syndicale dans ce comité de suivi des aides. Il y a plusieurs milliards, dizaines de milliards qui sont distribués. Et encore une fois, je ne les remets pas en cause vu la situation catastrophique dans laquelle on était. Là, on est intervenu et hier, on a appris qu'il y aurait un représentant de chaque organisation syndicale dans ce comité de suivi des aides qui va être du soutien aux entreprises qui va être présidé par Monsieur Queré. Et c'est une bonne chose parce que ceux qui pensent que ça va être encore quelques-uns qui vont décider pour tout le monde, ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus, c'est fini ça.
Karine Becker.
Je reste sur la question des aides qui effectivement est fondamentale. Est-ce que l'État peut distribuer des montants aussi importants qu'on entend, hein ? On entend 7 milliards à Air France, il y a la SNCF aussi qui va bénéficier des aides, si j'ai bien compris ce qu'a dit son PDG hier sur France Inter. Donc est-ce que l'État peut distribuer des montants aussi importants à des entreprises qui ont déjà annoncé malgré tout qu'elles vont licencier des salariés ? Compte tenu du contexte, comme vous dites, social et économique, est-ce que vous validez la distribution de ces aides ou pas ?
Laurent Berger.
Bah, vous savez, il suffit d'aller se retourner 15 secondes auprès de ses salariés et de ses entreprises pour que vous validiez le fait qu'il y ait des aides aux entreprises. Parce que l'inquiétude qui demeure chez un certain nombre de salariés d'une grande entreprise ou de petites entreprises, il est très 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 important. Mais vous savez, à la SNCF notamment, elle doit être aidée, c'est sûr. Mais on doit aussi la développer, parce que la SNCF est un vrai outil du modèle de développement qui est nécessaire de suivre demain. En termes de fret, en termes de transport des personnes, oui, c'est normal d'avoir ces aides. Après, est-ce qu'il y aura des licenciements dans ces entreprises? Évidemment que tout syndicaliste qui se respecte souhaite que non, mais si la logique c'est « je vous aide », et vous pouvez me jurer que pendant les 3 ans qui viennent, il n'y aura aucun licenciement. Vous savez, Air France, l'estimation fin août de la reprise d'activité, c'est 20% du trafic. Fin de l'année, c'est 50%. Et fin 2021, c'est 75 à 80%.
Ce que vous dites, c'est qu'il faut que les salariés se fassent une raison. Dans beaucoup d'entreprises, il y aura des licenciements.
Non,
c'est une fatalité.
Mais vous savez, les salariés, dans l'enquête qu'on a fait, ils ont beaucoup de craintes sur l'emploi, sur l'avenir de leur conditions de travail et sur les salaires. Mais ils disent aussi qu'ils veulent des changements profonds dans notre société. Et que les efforts, parce qu'il ne faut pas qu'on se raconte d'histoires, sauf à être des enjôleurs, mais la situation qu'on va traverser va être très compliqué. Et les efforts, ils doivent être partagés. Et par exemple, il y a 87% d'entre eux qui estiment que parmi les efforts, il faut rétablir une contribution des plus riches. De la même manière, il faut taxer davantage le capital. Donc la question, elle n'est pas de savoir est-ce qu'il y aura.
Ils sont aussi favorables à 77% à diminuer les dépenses publiques.
Oui, mais en même temps, ils sont à 70% quasiment pour davantage de services publics, parce que la corrélation entre dépenses publiques et services publics est des fois pas totalement intégrée. Ça, la dépense publique, c'est souvent ce qu'on pense que des dirigeants dépensent, etc. Mais les services publics sont validés aussi dans cette enquête. Vous savez, demain, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. En tout cas, ceux qui disent voilà ça, ce qui va se passer au niveau économique de façon certaine sont très très forts, mais j'ai du mal à les croire. Ce qu'on sait, c'est que ça ne va pas être simple. Et que si ça repart comme avant, c'est-à-dire décider à quelques-uns et repartir sur le modèle économique tel qu'il fonctionnait, avec une logique low cost et plutôt une logique de coût que de qualité, on va dans le mur. Donc ce que nous dit cette enquête, hein, notamment, c'est on peut pas faire comme avant et on peut pas faire sans les travailleurs. Ouais. Maintenant, je suis en train de vous dire que ça va être facile. La réponse est non, parce que ça sera pas facile, parce que on voit bien que dans certains secteurs, ça va beaucoup souffrir.
Françoise Fraisseuse.
Alors, le 13 avril dernier, Emmanuel Macron promettait de sortir des sentiers battus. Vous vous dites, on peut pas revenir au monde d'avant. Comment vous pourriez participer à l'élaboration de cette nouvelle période où il faut, au fond, réinventer les priorités pour les 2 années qui viennent ?
Laurent Berger.
D'abord, on le fait beaucoup en travaillant avec d'autres, hein. C'est l'idée de ce pacte du pouvoir de vivre, de la même manière que on échange beaucoup avec un certain nombre d'intellectuels dans cette période. Moi, je crois qu'il faudra 3 étapes. Il faut d'abord se dire ce que cette crise nous enseigne. Et cette crise, elle nous enseigne que lorsqu'on veut privilégier la vie humaine, on est capable de le faire. Donc il est hors de question de repartir comme avant, en ayant comme seul objectif la progression du PIB. Ça veut dire qu'il faut redéfinir ce que sera le progrès demain, et faut repartir sur les grands principes qu'on veut avoir. Et les grands principes, je crois que c'est plus de justice sociale, une démocratie qui fonctionne mieux, et s'inscrire résolument dans la transition écologique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir que on se dise c'est quoi les premières actions à mener pour montrer qu'on s'y inscrit bien. Et c'est ça les 15 premières mesures que le pacte du pouvoir de vivre a enclenché, qui sont des mesures de soutien aux plus fragiles, mais aussi davantage de dialogue social. Et je crois qu'il faudra beaucoup de délibérations. Nous, on pense qu'il faut une conférence sociale et écologique qui permette de reposer les bases d'un autre modèle de développement. Ce qui est sûr, Madame Fraisseuse, c'est si demain La logique, elle, on repart à quelques-uns pour décider pour tout le monde et on fait fi de la société civile comme des citoyens, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Cette crise, elle est profonde. Maintenant, est-ce qu'on décide de la transformer en opportunité ou est-ce qu'on repart comme avant? Si on repart comme avant, oui, il y aura de gros conflits sociaux.
D'un mot, Laurent Berger, avant de donner la parole à Nathalie Saint-Cricq, est-ce que le gouvernement a accepté l'idée d'organiser avant l'été une conférence de la transformation écologique et sociale comme vous le réclamez?
Non, pour l'instant, on n'a pas de réponse. On sent bien qu'il y a une gestion de l'urgence de la crise. On peut pas le reprocher non plus, parce que ça leur serait reproché s'il y avait juste une projection dans l'avenir. Mais je crois que on rentre petit à petit dans cette période où il faut apprendre à vivre avec ce virus, parce que malheureusement, il va pas s'arrêter. J'ai l'impression à l'été, en tout cas, c'est pas ce qu'on nous dit. Et en même temps, essayer de penser le modèle d'après qui peut pas être celui d'avant. Et moi, je suis désolé, les mots du président de la République étaient très très forts. À certains moments, en disant on pourra pas faire comme avant. Il faudra davantage investir dans les services publics, dans notre système de santé. On pourra pas repartir en ayant comme seule boussole la croissance économique. Il faudra interroger le contenu de cette croissance. Eh bien, maintenant, on a envie de dire chiche, et ça veut dire qu'il faut beaucoup de temps de délibération pour y arriver, ouais. Et surtout pas avoir des repartir comme avant, c'est un peu le risque qui peut pointer aujourd'hui.
Dernière question, Nathalie Saint-Cricq.
Une question un peu plus terre à terre, Laurent Berger. Le gouvernement laisse entendre que les vacances, ça sera 100 km s'il y en a. Je sais très bien qu'il y a moins d'un Français sur deux qui part. Est-ce que vous craignez que ce soit un facteur de tension supplémentaire? Et est-ce qu'il faut faire particulièrement un effort pour les enfants, les jeunes ou les personnes de zones un peu défavorisées? Vous en avez parlé tout à l'heure au début de l'émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit être fait en termes de colonies de vacances? Je ne sais. De manière à ce que les gens aient une soupape.
Oui, bien sûr. Je crois que moi, vous savez, ma préoccupation, elle est vraiment tous ceux qui avant étaient déjà un peu en bordure de la société, avec qui on avait du mal à faire une place, et qui avec ces mesures le vivent encore plus durement et sont dans une situation plus difficile. Donc oui, il faudra des mesures d'aide particulières pour aider des enfants, des jeunes ou des adultes même à pouvoir bénéficier de vacances. Et après, sur les plus de 100 km, encore une fois, je suis pas compétent sur la question sanitaire, je crois qu'il faut pas mélanger les rôles, mais
on l'a compris.
Oui, on rentre sans doute dans une période.
Non, mais est-ce qu'il faut pas lâcher un peu de lest quand même? Pourquoi 100 km? Pourquoi pas 150? Pourquoi pas 70?
Oui, ben justement, je sais pas. Je ne sais pas, mais je suis pas épidémiologiste et je suis pas médecin. Donc, ce que je sais, c'est que si on ne gère pas en parallèle la question sociale et sociétale, et d'endroits qui commencent à craquer, et je pense notamment à certaines zones périurbaines ou urbaines, eh bien, on aura des problèmes sociaux qui se rajouteront à ça. Ouais. Donc, encore une fois, il faut le temps de la délibération, et il y a quelque chose qui est très puissant dans notre pays, ça s'appelle les associations et la société civile.
D'un mot, Laurent
Berger. Si on s'appuie un peu plus sur elles, peut-être qu'on trouvera un peu plus les moyens de faire au mieux, parce que ce dont il est question, c'est de faire au mieux, mais on peut pas faire au mieux s'il n'y a pas des éléments de justice sociale. Et donc, il faudra prendre ça en compte. Et il y a un dernier élément que je veux dire.
Dernier, Laurent Berger.
À la fin, il faudra pas oublier un plan grand âge, un plan pour les personnes âgées, parce que cette crise, elle nous a aussi révélé qu'il fallait qu'on s'occupe mieux de nos personnes âgées.
Et on aura évidemment l'occasion d'en reparler.
Ça sera aussi un des éléments de sortie de crise.
Merci Laurent Berger.
Merci à vous
d'avoir répondu à nos questions. Bon dimanche, il est midi et demi. Et Questions politiques continuent avec Nathalie Saint-Cricq, Françoise Fressoz et Karine Bécart. Tout de suite, la deuxième partie avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
France Inter, Ali Badou. Question politique.
Bonjour Sibeth Ndiaye.
Bonjour.
Merci d'être à l'antenne de France Inter. Beaucoup de questions à vous poser. Même question pour démarrer que celle que je posais à Laurent Berger. Elle est à la une du Parisien. C'est une phrase. La date de levée du confinement pourrait être remise en question. Fermez les guillemets. C'est une citation du ministre de la Santé, Olivier Véran. Est-ce que le gouvernement nous prépare petit à petit à ce que le confinement n'ait finalement pas lieu le 11 mai?
Notre objectif est évidemment que le confinement puisse avoir lieu de manière très progressive avec beaucoup de prudence. le déconfinement, excusez-moi, puisse avoir lieu de manière progressive, prudente, en mettant en place toutes les mesures de sécurité sanitaire qui seront nécessaires. Ce déconfinement, il ne sera possible que dès lors que nous aurons maîtrisé la situation épidémique. Aujourd'hui, tous les indicateurs dont nous disposons sont plutôt encourageants pour que ce déconfinement puisse avoir lieu à partir du 11 mai en plusieurs étapes, mais cela dépend aussi de notre capacité collectivement, individuellement, à respecter d'ici là le confinement et à maintenir le taux de contagiosité de la maladie le plus bas possible.
Justement, la stratégie du gouvernement repose beaucoup sur l'adhésion du Français, sur la capacité à susciter la mobilisation de l'ensemble de la population. Comment faire quand la plupart des Français se méfient du gouvernement, ne lui font pas confiance pour la gestion de la crise liée au coronavirus? Comment faire pour mobiliser tout le monde quand plus de 6 Français sur 10 n'ont pas confiance en l'exécutif?
Je crois qu'aujourd'hui, le sujet de la confiance est fondamental. Nous faisons confiance aux Français pour qu'ils fassent preuve de civisme, de responsabilité individuelle. Et notre engagement du côté de l'exécutif est de mettre en place toutes les mesures, de donner toutes les directives qui permettront d'assurer la sécurité sanitaire dans la période du déconfinement. Nous marchons pas à pas, nous nous appuyons sur des indicateurs sanitaires qui sont transparents, qui sont désormais donnés quotidiennement par le ministère de la Santé, pour que chacun, au fond, sache à quoi s'en tenir avec cette différence entre les fameuses zones rouges et les zones vertes. L'objectif est vraiment d'avancer pas à pas. Moi, j'ai la conviction que ce plan de déconfinement doit être le plan de la nation tout entière et que chacun, nous avons un rôle à y jouer du côté des gouvernants pour mettre en place un cadre qui soit compris, qui soit clair, qui soit cohérent pour chacun et évidemment du côté des Français pour que toutes les mesures qui sont préconisées soient respectées. Mais j'y crois vraiment très sincèrement parce que j'ai vu dans la période du confinement comment chacun avait fait preuve d'une extraordinaire responsabilité, d'un sens de la protection du collectif très aigu et je n'ai pas de raison de douter que ce ne soit pas le cas après la période de confinement.
Nathalie Saint-Cric.
Alors est-ce que vous comprenez, bonjour d'abord, bonjour Sibeth Ndiaye, est-ce que vous comprenez que les Français ne comprennent pas un certain nombre de choses? C'est-à-dire pourquoi le 11 alors qu'on nous dit que les écoles seront pas forcément prêtes? Pourquoi 100 km? Pourquoi les plages alors qu'on va aller dans le métro? Est-ce que vous comprenez qu'il y a des choses un petit peu étranges et que les gens aient du mal à suivre?
Il y a des choses qui sont indispensables pour la reprise d'une vie qui ne sera pas une vie normale, qui ne sera pas la vie d'avant le confinement, mais qui sera une vie dans une forme d'habituation vis-à-vis de la circulation du coronavirus. Je comprends qu'il y ait des inquiétudes, je comprends qu'il y ait parfois le sentiment qu'il y ait des inquiétudes, des incompréhensions. Ce que nous essayons de faire, c'est au fond d'avoir à chaque fois des lignes directrices qui permettent de comprendre les choses. Et donc, nous avons, par exemple, indiqué qu'il fallait éviter les brassages de population parce qu'on sait que c'est quand on a des gens qui
mais
viennent d'endroits différents.
À la plage, on se
différents.
Brasse moins que dans le métro, excusez-moi. À la plage, on se brasse moins que dans le métro. Ça semble.
Mais il est moins évidence. Indispensable. Il est moins indispensable d'aller aujourd'hui à la plage que de pouvoir utiliser les transports en commun. Et dans les transports en commun, nous aurons des mesures qui seront mises en place, comme le port du masque obligatoire, comme le maintien des distances de protection entre les uns et les autres pour que cela soit rendu possible. Notre objectif, c'est vraiment, et je pense que c'est
mais
un
ça,
élément qui est important à faire passer aux Français, c'est notre préoccupation première, c'est leur sécurité sanitaire. Elle passe avant toute chose. Et c'est vraiment un message, je crois, important à faire passer.
Mais justement, question de bon sens aussi et de logique, pourquoi permettre de prendre les transports en commun, de retourner à l'école et pas, par exemple, de rouvrir les cinémas, les théâtres, les restaurants, les bars, si un certain nombre de conditions sont réunies et qu'on peut le faire dans des conditions sanitaires satisfaisantes? C'est très compliqué à entendre, d'autant que ça crée de véritables situations de catastrophe pour des secteurs entiers de l'économie. Je pense évidemment à la restauration, je pense aussi évidemment au monde de la culture qui est face aujourd'hui à une situation absolument invraisemblable et où l'inquiétude s'est installée.
Je comprends bien entendu l'inquiétude dans ces secteurs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons décidé d'avoir des plans d'aide spécifiques pour chacun des secteurs que vous venez de citer. Évidemment, il y a des choses qu'on fait dans notre vie de tous les jours qui sont indispensables, d'autres qui le sont un peu moins. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fédérations professionnelles du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés, pour faire en sorte de réfléchir aux mesures que l'on pourra mettre en place pour assurer la sécurité sanitaire. C'est un travail que nous menons actuellement sous la houlette de la ministre du Travail et du ministre de l'Économie et des Finances. Mais je crois aussi que nous avons un impératif de prudence. Moi, je préfère avancer à petits pas, prudent, évaluer à chaque instant comment évolue la situation.
Mais pourquoi le RER n'est pas un cinéma ?
D'ouvrir. Mais tout simplement parce que le RER, vous en avez besoin pour pouvoir vous déplacer et aller à votre travail lorsque le télétravail n'est pas une possibilité qui vous est offerte, alors que on peut
mais
se passer...
Mais une société a besoin de la culture, et d'autant que
bien
là, on
sûr,
ne parle pas uniquement de celui qui est spectateur, on parle aussi de ceux qui produisent la vie culturelle, de tous ceux qui y travaillent, et pour le coup, c'est un secteur économique et un nombre d'emplois considérable.
Moi, je comprends complètement la frustration qu'on peut avoir. Et dans beaucoup de domaines, aujourd'hui, on est contraint. On est contraint dans le confinement pour notre liberté de déplacement. On est contraint dans notre vie spirituelle parce que on ne peut pas forcément la vivre comme on le voudrait. On est contraint dans notre vie culturelle parce que aujourd'hui, les établissements culturels sont fermés. Notre objectif, il reste quand même prioritairement d'assurer la sécurité sanitaire. Et cette priorité implique que nous fassions des choix. Nous fassions des choix entre ce qui est urgent à remettre en route et ce qu'il est un peu moins. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des choix, qui sont des choix d'être dans un déconfinement qui soit ordonné, pas à pas, prudent, progressif. Et évidemment que nous menons des discussions avec le secteur culturel, avec le secteur du tourisme, parce que nous savons qu'ils sont profondément impactés, peut-être sans doute même plus encore que d'autres secteurs qui, eux, vont avoir la possibilité de réouvrir après le 11 mai. Mais je crois vraiment, et ça, je pense que tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment le comprendront, il vaut mieux s'armer de prudence, faire les choses en ayant à chaque fois des clauses de revoyure, en quelque sorte, des moments où on regarde ces indicateurs sanitaires pour savoir où est-ce qu'on en est de l'évolution de l'épidémie, pour revenir progressivement à une vie normale, mais une vie qui sera malheureusement toujours avec le virus pour un certain temps encore.
Karine Bécard.
Alors, Sibeth Ndiaye, il y a un secteur qui cristallise beaucoup à la fois les interrogations et les inquiétudes, c'est évidemment l'école. Il y a un certain nombre de maires qui menacent de ne pas rouvrir les écoles maternelles et primaires. Hervé Morin, ce matin, le président de la région Normandie, dit la même chose pour ses lycées à lui, donc dans sa région. Est-ce qu'ils auront le droit ? Est-ce que le gouvernement autorisera qu'ils ne rouvrent pas ces établissements scolaires ?
Sibeth Ndiaye.
Nous sommes aujourd'hui dans un moment de co-construction avec les élus locaux. Ce moment de co-construction, il implique que le gouvernement édicte un cadre, mais que les préfets sur le terrain puissent en discuter avec avec les représentants des élus. Et c'est un processus de collaboration que nous avons depuis quelques semaines maintenant. Il y a évidemment des inquiétudes.
De collaboration ou de délégation de responsabilité ?
J'entends aussi des élus, je pense en particulier au président Muselier, qui disent que ils sont très attachés à ce que l'école puisse réouvrir le plus largement possible. Nous avons donc mis en place et présenté un protocole sanitaire vendredi dernier qui permet au fond de dire ce qu'il faudra faire pour rendre possible l'ouverture des écoles. Nous ferons aussi montre de souplesse sur le terrain parce que tout le monde comprendra que dans les zones vertes où le virus a peu circulé, on n'est pas complètement dans la même situation que dans une zone rouge où il y a eu une circulation active du coronavirus. Donc il faudra que nous ayons cette souplesse au niveau local, mais nous donnons toutes les clés à travers ce protocole sanitaire, à travers la doctrine d'accueil des élèves dans les écoles, puis dans les collèges à partir du 18 mai, pour que les choses se fassent dans les meilleures conditions de sécurité sanitaire possible.
Karine.
Donc les lycées en Normandie sont dans une zone verte, sont systématiquement, enfin je crois que tous les départements de la Normandie sont ouverts, donc est-ce que vous autoriserez Hervé Morin quand il dit « je ne rouvrirai pas mes lycées ».
La question des lycées ne se pose pas dans l'immédiat puisque, vous le savez, nous n'avons pas encore décidé de leur réouverture. Ce qui est décidé à ce stade, c'est que les écoles puissent commencer à réouvrir à partir du 11 mai, qu'ensuite les collèges dans les zones vertes puissent réouvrir à partir du 18 mai pour les classes de 6e et de 5e. Et à la fin du mois de mai, nous aurons un point d'étape en fonction du niveau de circulation de l'épidémie pour décider de ce qu'il en sera pour les lycées. Donc la question ne se pose pas dans l'immédiat. Nous devons y réfléchir. Nous devons évidemment collaborer avec les associations d'élus, en particulier les élus à la tête des régions, pour voir dans quelle mesure les choses seront possibles ou pas au début du mois de juin.
Françoise Fraisseuse.
Est-ce que les incertitudes qui pèsent autour de la date du 11 mai sont liées au fait qu'il pourrait ne pas y avoir tous les masques ou tous les tests disponibles dans chaque département à cette date ?
Pour que le 11 mai soit possible, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord, et c'est la première chose, au fond, le point où nous en serons de l'épidémie. C'est pour ça que le Premier ministre a indiqué que le 7 mai, nous ferions un bilan pour savoir où nous en sommes de la circulation du virus et pour savoir si le 11 mai est possible et à quelles conditions. Il y a aussi évidemment notre capacité à mettre en œuvre une politique de test qui soit massive, qui soit ambitieuse et qui permette de tester toutes les personnes qui présentent des symptômes et toutes les personnes qui, une fois qu'elles sont avérées positives, nous donnent la liste de leurs cas contacts, les gens avec qui ils ont été en contact de manière rapprochée, pour que nous puissions également les tester. Il faut évidemment que nous disposions de ces fameuses brigades d'enquêteurs sanitaires, et donc nous avons en ce moment même un travail colossal pour mettre en place ces brigades, et puis il faut évidemment que nous soyons en capacité de proposer des modalités d'isolement, que ce soit à la maison ou de manière collective.
Françoise.
Vous me dites il faut, mais est-ce que vous pouvez me dire que le 11 mai, vous serez prêt sur la capacité à tester et à fournir les masques ?
Tout à fait. Nous avons eu un travail ces dernières semaines pour augmenter considérablement notre capacité de test. Et nous savons qu'à compter du 11 mai, nous aurons la capacité de réaliser 700 000 tests par semaine. Nous avons levé beaucoup de blocages administratifs pour pouvoir le faire et faire en sorte que tous les laboratoires qui en ont les capacités techniques puissent le faire de manière opérationnelle. Nous avons aussi fait en sorte d'augmenter considérablement notre production de masques à l'échelle nationale. Nous avons aujourd'hui près de 100 millions de masques soignants qui arrivent chaque semaine en France. Et d'ailleurs, le ministre de la Santé a annoncé ce matin que nous allons augmenter le nombre de masques qui sont distribués au personnel soignant s'entendant au sens large, y compris dans les établissements médico-sociaux. Et nous avons aussi, et nous avons été de ce point de vue-là pionniers dans le monde, pour mettre en place une filière de production de masques grand public qui permettront un très bon niveau de protection. Ils ne peuvent pas être utilisés en milieu soignant, évidemment, mais nous avons plus de 200 entreprises qui, sur tout le territoire national, produisent des masques grand public. Et notre engagement est de faire en sorte que tous les Français qui le souhaitent puissent accéder à un masque à partir du 11 mai.
Ils seront distribués gratuitement ?
Alors ces masques, ils auront une phase d'amorçage dans laquelle ils seront distribués gratuitement, mais nous ferons aussi en sorte que, en particulier je pense aux personnes vulnérables, mais ils seront également disponibles en pharmacie, dans la grande distribution, justement pour que partout on puisse trouver facilement un masque.
Nathalie Saint-Cricq.
Alors, pour pouvoir franchir les 100 kilomètres, il est dit qu'il faut avoir des raisons familiales impérieuses. Alors, je voulais savoir comment cela se prouvait et qui le vérifiait. Il y a eu un fait divers assez terrible à l'île de Ré, où il y a un jeune homme qui voulait aller voir son père mourant, et un gendarme lui a interdit d'y aller, et le père est mort sans revoir son fils. Quelle est cette raison familiale impérieuse ? Qui fait l'attestation et qui la vérifie et sous le contrôle de qui ?
La situation que vous avez évoquée était évidemment une situation extrêmement douloureuse et il y a forcément des moments où les choses ne s'appliquent pas forcément avec discernement. Je le regrette très profondément. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est en train de travailler avec ses équipes pour déterminer comment est-ce que les contrôles seront faits pour cette fameuse distance de 100 km. L'objectif est que nous ayons un dispositif qui soit compréhensible par tous les Français. En même temps, ce que je constate, c'est que dans la période que nous sommes en train de vivre encore, qui est celle du confinement, nos compatriotes se sont vraiment saisis du fonctionnement des attestations de déplacement. Je ne sais pas encore aujourd'hui, puisque cela n'est pas encore décidé, comment le contrôle s'organisera pour le franchissement de cette barrière des 100 km. C'est encore un travail que
nous
menons.
Parce que ce n'est pas pour partir en week-end, c'est juste pour aller voir éventuellement des gens de sa famille qui sont âgés ou qui sont malades. Je veux dire, ce n'est pas pour aller à Saint-Tropez. Vous voyez, cette question-là, elle me semble assez importante.
Vous avez complètement raison, c'est une question qui est très importante, c'est évidemment un élément de préoccupation fort, mais aujourd'hui dans la période de confinement, lorsque vous devez porter assistance à une personne vulnérable ou fragile, il est déjà possible de sortir de son domicile muni d'une attestation. Donc on voit bien qu'il y a eu aussi dans cette période de confinement une très grande responsabilité de nos compatriotes qui se sont bien saisis des outils qui étaient à leur disposition. Donc nous travaillons actuellement sur le dispositif qui sera mis en place à partir partir du 11 mai pour ces fameux 100 km. Donc je ne peux pas aujourd'hui vous apporter de réponse, mais nous ferons en sorte que les choses soient simples pour nos concitoyens.
Est-ce qu'il y a un relâchement de la discipline des Françaises, Sibeth Ndiaye ? Est-ce que vous avez le sentiment que la population respecte un peu moins bien aujourd'hui les règles du confinement qu'elle ne le faisait il y a encore quelques jours, quelques semaines ?
Nous avons un élément objectif qui montre que le taux de contagiosité a très légèrement remonté. Il était de 0,5, c'est-à-dire que vous aviez 10 personnes n'en contaminées que 5 la semaine suivante. Aujourd'hui, on est à un taux de 0,6, 0,63 pour être exact. Donc nous avons 10 personnes qui sont susceptibles de contaminer 6 personnes. Et donc ça montre effectivement qu'il y a eu plus de sorties, parce que si ce taux a augmenté, c'est parce qu'il y a eu un peu plus de contacts. Il faut qu'il reste en dessous de 1. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cet appel à la responsabilité des Français pour continuer ensemble à faire en sorte qu'il y ait le moins de contacts possible entre les individus.
Un appel ou un avertissement ?
C'est un appel, parce que, vous savez, moi je suis pas dans une logique qui est punitive vis-à-vis des Français. Je crois au contraire que c'est parce que nous leur faisons confiance que, munis de cette confiance, ils sont capables, et ils l'ont démontré pendant le confinement qui a été
dans une très, très large... Enfin, il y a la confiance, mais il y a aussi les contrôles et il y a les amendes. Mais justement...
Mais bien sûr, la confiance n'exclut pas le contrôle, mais d'abord, je pense que la confiance est un pilier indispensable pour réussir le confinement comme nous l'avons réussi jusqu'à maintenant, et pour réussir le déconfinement ensuite. Parce que demain, lorsque nous serons dans cette première phase du déconfinement. Chaque personne qui a des symptômes, il faut qu'on soit capable de lui faire confiance pour qu'elle appelle son médecin et se fasse tester. Une fois que cette personne a été testée, nous lui ferons confiance pour nous donner les cas contacts, et donc au fond, pour qu'elle soit dans un sentiment altruiste vis-à-vis des personnes qu'elle a pu contaminer.
Mais elle pourra aussi être isolée.
Et bien sûr, elle devra s'isoler. Non, alors là, les choses sont assez claires de ce point de vue-là. Nous aurons deux types de mesures concernant l'isolement. Pour les gens qui résident aujourd'hui sur le sol français et qui pourraient se révéler positifs, nous leur proposerons un isolement qui sera un isolement volontaire. Mais très honnêtement, avec ce qu'on a vu de ce que provoquer le coronavirus, je crois pas qu'il y ait des Français qui aient envie, à titre individuel, de prendre la responsabilité de continuer à contaminer d'autres personnes.
Mais
quand
imaginons
ils se savent
que ce soit le cas.
Contaminés. Eh bien, nous aurons un dialogue qui sera notamment mené par le médecin de famille, celui qui vous suit dans votre vie et dans votre santé au quotidien, pour vous convaincre. Mais je crois très sincèrement que les Français ne sont pas dans une optique où ils ont envie de participer à la dissémination du virus.
Encore une
question. Nous aurons un second cas pour des gens qui viennent de l'étranger, pour lesquels nous établirons une liste de pays à risque, et pour lesquels, lorsque les gens viennent de zones à risque, que ce soit des Français ou des étrangers, nous aurons des mesures de quarantaine obligatoires.
Il y a de très nombreuses mesures, et c'est vrai que c'est compliqué, et qu'il va falloir apprendre à en connaître tous les détails et toutes les précisions. Mais comment faire, par exemple, pour empêcher des voyageurs du métro, du RER, d'autres transports publics, des voyageurs de monter dans une rame qui est déjà pleine parce qu'ils doivent aller au boulot, tout simplement?
Nous allons d'abord prendre des mesures d'ordre général. Nous encourageons, et c'est ce que le Premier ministre a dit, toujours le télétravail. Ça doit rester un élément fondamental de notre organisation au travail, même après le confinement. Nous aurons aussi dans les territoires un dialogue avec les entreprises, avec les représentants des chefs d'entreprise, pour qu'on puisse avoir une sorte de lissage des heures de pointe et que tout le monde ne commence pas à la même heure au travail. Nous allons
Mais il y
aussi
aura toujours des
grandes...
rames bondées.
Nous allons aussi faire en sorte que dans les grandes agglomérations, on puisse augmenter le nombre de trains qui circulent, tout en régulant le nombre de personnes à l'intérieur. Moi, je crois, dès lors que nous sommes capables de maintenir le télétravail, d'avoir ces horaires différenciés, que ce sera en quelque sorte d'une grande aide pour permettre d'organiser les mesures de distanciation au sein des transports. Mais dans votre vie quotidienne, vous voyez déjà aujourd'hui que les Français ont pris le pli de faire la queue à l'extérieur des magasins avec un mètre de distance lorsqu'ils doivent accéder à un commerce alimentaire, lorsqu'ils doivent accéder à une pharmacie.
Mais on voit aussi notamment à Paris, par exemple, des métros et des RER pleins. À certaines heures.
C'est parce que aujourd'hui, ces règles de distanciation sociale, elles ne sont pas encore en vigueur de manière obligatoire dans les transports en commun. Mais j'ai vu aussi que depuis le début du confinement, nos concitoyens s'étaient adaptés à chaque fois qu'il y a des règles qui avaient évolué. Et je leur fais confiance. profondément pour qu'ils aient cet esprit de responsabilité, pour pouvoir s'adapter aussi aux nouvelles règles qui seront en vigueur. Nous aurons évidemment des contrôles qui s'appuieront sur les agents assermentés de sûreté des grandes entreprises de transport, pour faire en sorte que ces mesures de distanciation sociale puissent être mises en œuvre à l'intérieur des rames, de trains, à l'intérieur des bus, à l'intérieur des tramways.
Françoise Fressoze.
Est-ce que vous pouvez nous préciser l'évolution de l'application Stop Covid ? Elle était prévue, en tout cas on pensait qu'elle pourrait être prête le 11 mai, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'elle verra le jour ? Est-ce que c'est abandonné ? Quelle est votre philosophie là-dessus ?
Nous n'avions jamais eu d'engagement, je préfère le souligner, pour que l'application Stop Covid soit prête le 11 mai. Ce que nous avons dit, c'est que en complément des enquêtes sanitaires qui seront menées par des brigades d'enquêteurs sanitaires pour remonter les chaînes de contamination, nous aurions potentiellement besoin d'un complément utile avec une application numérique. Je m'explique, quand vous êtes en contact dans le métro ou bien dans un commerce avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas donner son nom lorsque on fait l'enquête rapprochée pour savoir avec qui vous avez été en contact autour de vous. Donc, une application numérique qui ne fait pas de la géolocalisation, mais qui permet simplement, à travers le Bluetooth, de savoir avec qui vous avez été en contact de manière rapprochée, à une courte distance et pendant un certain temps, ça peut être véritablement utile. Cette application, aujourd'hui, elle n'est pas prête techniquement. Donc, nous devons laisser le temps du développement. J'ai bon espoir pour que, d'un point de vue technique, elle soit prête à la fin du mois de mai ou au début du mois de juin. Et ensuite, nous aurons un débat, qui est un débat, je crois, tout à fait légitime au niveau du Parlement pour la mise en place de cette application, parce que il y a évidemment des inquiétudes, des questionnements sur le respect des libertés publiques qui se font jour, parce que c'est une application comme nous n'en avons jamais utilisé, et ce débat dans la société, ce débat au Parlement, il est évidemment légitime.
Nathalie Saint-Cricq.
Alors, il y a un certain nombre de maires en France qui considèrent que vous vous défaussez un petit peu sur eux et que vous faites de la sous-traitance du déconfinement et qui ont peur notamment que leurs responsabilités soient mises en cause plus tard avec les enfants dans les écoles. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre pour qu'ils puissent non pas dormir tranquille mais déconfiner tranquille ?
Aujourd'hui, nous avons eu un processus de co-construction avec les élus locaux. Ce travail de co-construction, il nous permet, en nous appuyant sur les préfets, sur les élus locaux, de voir comment est-ce que le cadre général qui a été présenté par le Premier ministre en début de semaine peut s'appliquer de manière évidemment différenciée suivant le territoire. Mais au fond, l'inquiétude de la responsabilité, on la partage tous. Quand vous êtes un chef d'entreprise et que vous organisez le retour au travail de vos salariés, quand vous êtes un haut fonctionnaire, que vous prenez au quotidien des décisions dans le cadre de la crise du Covid-19. Et aujourd'hui, nous avons au fond un cadre juridique qui est très clair, notamment pour les élus locaux, qui résulte d'une loi qui a été votée il y a une vingtaine d'années, qui s'appelle la loi Fauchon, et qui en fait encadre la responsabilité pénale des élus. Il faut que vous ayez eu, quand vous êtes un élu local, une démarche volontaire de violation des prescriptions qui vous ont été faites. Et donc ce cadre juridique, il existe. Je sais qu'il y a des initiatives parlementaires, notamment dans le cadre de l'examen de la loi d'urgence qui débutera au Sénat à partir de lundi après-midi, des initiatives parlementaires pour essayer peut-être de clarifier les choses. Et si ces clarifications sont utiles d'un point de vue juridique, le gouvernement est évidemment prêt au dialogue sur ce sujet-là.
Karine Bécard.
Je vais vous poser deux questions rapides, vu l'heure qui tourne, et il est compliqué de pouvoir poser des questions, donc je me dépêche.
Allez-y, Karine, alors.
La polémique sur les masques dans les grandes surfaces, d'abord. Olivier Véran rappelle ce matin dans une interview que les Français n'ont pas à porter de masques chirurgicaux, donc pourquoi est-ce que des masques chirurgicaux vont être vendus dans des supermarchés ? C'est ma première question. Et la deuxième sur les municipales, est-ce que les dates qui transparaissent ce matin dans la presse, notamment dans le JDD, du premier tour 27 septembre, deuxième tour 4 octobre. Est-ce que ces dates sont exactes, sont justes ? Est-ce que c'est un scénario sur lequel vous travaillez ?
Alors, pour ce qui est des élections municipales, la situation est très claire. Nous avons deux possibilités. Le 23 mai, un rapport sera rendu au Parlement qui indiquera est-ce que oui ou non il est possible d'organiser les élections municipales, le second tour, au mois de juin. Si ce rapport nous dit que c'est possible, eh bien, nous aurons évidemment à regarder s'il y a un consensus politique pour ce faire et nous les organiserons tel que cela est prescrit. Si ça n'est pas possible, nous aurons à avoir à nouveau un débat devant le Parlement pour fixer de nouvelles élections municipales. municipales, pour les communes évidemment qui n'ont pas pu réaliser de second tour. Et à ce moment-là, une décision sera prise par la représentation nationale sur une nouvelle date d'élection. Mais aujourd'hui, je peux évidemment pas vous confirmer qu'il y aurait déjà un scénario sur, selon lequel des élections municipales pour le second tour et d'ailleurs pour le premier tour. Honnêtement, je pense que ce qui est l'urgence aujourd'hui concernant les élus municipaux, c'est qu'on puisse au plus vite organiser l'élection des maires dans les villes où il y a eu une élection dès le premier tour. Notre volonté est que ça se fasse le plus vite possible, car dès lors qu'il y a des confinements, il n'y a pas de raison que on ne puisse pas, avec les bonnes mesures de sécurité sanitaire, élire les maires lorsque cela est possible.
Avant que vous ne répondiez justement sur les masques à la question de Karine Bécard, on a entendu le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, s'inquiéter du projet de loi organisant le déconfinement, notamment la responsabilité des élus qui seraient engagés, et il a l'intention de saisir le Conseil constitutionnel pour essayer de voir plus clair, ou en tout cas de limiter la responsabilité des élus locaux sur laquelle se reposerait trop le gouvernement.
Moi, je suis quand même attentive à ce que on n'organise pas une irresponsabilité collective. On se repose beaucoup sur la responsabilité individuelle des Français pour réussir ce déconfinement. Et évidemment, quand on est un décideur public, politique, je vous le disais aussi, quand on est un chef d'entreprise, dans le cadre de la crise, on est amené à prendre des décisions et donc à en assumer au fond les conséquences. Mais je vous le disais, il existe aujourd'hui un cadre juridique qui définit dans quel moment la responsabilité pénale des élus est engagée. Et ça prescrit notamment qu'il faut qu'il y ait une violation délibérée, manifeste, évidente des prescriptions qui auront été faites. Et ouais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a le protocole sanitaire qui est mis en place pour les écoles, qui est édicté d'un point de vue national par l'exécutif. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi des guides de bonnes pratiques dans le milieu professionnel pour organiser le travail à partir du moment où les gens reviendront travailler.
L'émission se termine, Sibeth Ndiaye. Juste d'un mot sur les masques.
D'un mot sur les masques, je pense que dans la situation où on est, il faut qu'il y ait le maximum possible d'endroits où on puisse acheter des masques, notamment quand on est médecin, où on puisse se fournir. Notre objectif, évidemment, il est de faire en sorte que le plus de Français possible ait aussi accès aux masques. C'est la raison pour laquelle nous aurons aussi la vente de masques grand public dans la grande distribution et également en pharmacie.
Merci Sibeth Ndiaye d'avoir répondu à nos questions et bon
merci
dimanche. Question politique se termine. Je vous rappelle la grande journée que consacrera France Inter à la culture, l'état d'urgence. Ce sera mardi et le programme est évidemment disponible sur le site de France Inter.